Oui, nous ne sommes pas samedi et nous sommes dimanche, mais on va quand même faire le point sur la semaine qu'on vient de vivre parce qu'on a vécu une semaine où nous avons principalement attendu. Attendu la Fed, attendu Oracle, attendu Broadcom. Le résultat final, ce n'est pas une grande surprise. La Fed a baissé les taux, Oracle a flingué sa guidance, Broadcom n'a pas sauvé le monde. Et à la fin, le S&P 500 a terminé jeudi soir au plus haut de tous les temps, mais avec de gros, très gros doutes sur l'avenir de la tech et de l'intelligence artificielle qui ont fait paniquer tout le monde pour boucler la semaine. Pour être très franc, j'ai un peu l'impression qu'on est au milieu de nulle part et qu'il fallait absolument voir ces nouveaux records d'altitude. Mais maintenant que c'est fait, bah, le doute nous assaille. Les photos de vacances de Trump et de Clinton qui ressurgissent et qui ramènent sur la table que les deux présidents pourraient bien ne pas être tout clairs et tout nets dans l'affaire Epstein. Mais à la fin, mais qu'est-ce que ça change vraiment? Et est-ce que quelqu'un est vraiment surpris? On nous a gavé de la fête pendant des semaines et des semaines. Et maintenant que c'est fait, on se demande si ça va vraiment suffire pour taper les 7000 avant de boucler cette année qui aura été placée sous le signe des tarifs douaniers et des messages de Trump sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 14 décembre 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Il y a des semaines où la bourse avance avec assurance, presque arrogante, presque persuadée d'avoir tout compris avant tout le monde. Et puis, il y a des semaines comme celle qui vient de se terminer où elle avance à pas feutrés, regarde un petit peu derrière elle toutes les 10 minutes et vérifie compulsivement si Jérôme Powell n'est pas en train de préparer une phrase assassine quelque part dans son bureau. Donc, vous l'avez entendu, la Fed a baissé les taux. Encore un quart de point propre, net. Et officiellement, enfin, la promesse monétaire que Wall Street attend depuis des mois comme un enfant attend Noël, sauf qu'une fois le cadeau ouvert, il se demande s'il n'y a pas une petite clause écrite en tout petit au dos de la boîte. Et cette clause, Powell l'a quand même lue à voix haute. Parce que oui, la Fed a baissé les taux, ramenant les Fed Funds dans une zone plus respirable, mais elle l'a fait avec ce ton très particulier, ce ton de banquier central qui vous dit « Je vous donne ce que vous voulez, mais... » Quand même, vous habituez pas trop, hein. Le message était clair, presque chirurgical, on a coupé, on peut encore couper, mais on n'a absolument pas juré sur la Constitution qu'on allait continuer à le faire à chaque réunion. Alors ne vous emballez pas non plus. Et là, le marché a commencé un tout petit peu à réfléchir, ce qui est jamais une bonne idée quand le marché commence à réfléchir. La semaine a donc ressemblé à un espèce de drôle de balancier émotionnel. Lundi, mardi, on se projette, on anticipe, on fantasme. Déjà, le monde merveilleux des taux bas et de la liquidité qui revient, des multiples qui s'étirent sans douleur. Mercredi, la Fed parle et soudain, tout devient beaucoup plus flou. À la clôture de la semaine, le tableau était révélateur. Le Dow Jones et les petites valeurs s'en sortent plutôt bien, comme si les investisseurs avaient décidé d'aller chercher des histoires un peu plus terre à terre, pendant que le Nasdaq, lui, y trébuche, y recule et il doute. Et tout ça, c'est pas un hasard. Parce que cette semaine n'a pas été uniquement la semaine de la macro, déjà qu'on n'a pas beaucoup de chiffres macro, mais elle a été surtout celle de la désillusion technologique. Oui, parce que l'intelligence artificielle, cette belle histoire qui commence à coûter cher à raconter et surtout à financer. Depuis des mois, l'intelligence artificielle, c'est le moteur, c'est l'excuse, c'est le prétexte, c'est la religion officielle de Wall Street. Tout est IA, tout devient IA et tout sera de l'IA. Et surtout, tout va gagner de l'argent grâce à l'IA. Un jour, peut-être, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Et c'est là que ça coince. Quand est-ce que l'IA va commencer à rapporter de l'argent aux investisseurs qui se sont coupés un bras pour construire l'infrastructure de l'IA en question? Et cette semaine, certaines entreprises ont commencé à parler, non pas de promesses, mais de réalité. Et la réalité, parfois, elle est vachement moins photogénique qu'on veut bien le penser. On va donc parvenir sur ce qui s'est passé sur Oracle mercredi dernier, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les chiffres étaient bons, parce qu'ils ont vendu une grosse participation, et que la guidance était toute pourrie. Mais le problème reste quand même le deal avec OpenAI. OpenAI qui a fait des promesses de paiement à hauteur de 300 milliards de dollars à Oracle, sauf qu'OpenAI n'a pas vraiment le premier dollar pour payer ce qu'ils doivent. Alors, oui, un jour, ils auront peut-être ou peut-être pas, mais là, tout de suite, ils ont pas. Et pour le moment, ils ont pas et les marchés commencent à douter sérieusement. La société de Larry Ellison est devenue l'indicateur de robustesse du système de financement de l'intelligence artificielle. Et là, tout de suite, ça sent plus les égouts que la rose. Cette semaine, HSBC a même envisagé la faillite d'OpenAI.
à l'avenir. Alors, on n'en parle pas trop parce que ça fait pas plaisir et que c'est pas le moment de briser les rêves des enfants en leur expliquant non seulement que le Père Noël n'existe pas, mais qu'en plus, s'il existait, il serait aussi allé sur l'île d'Epstein. Mais malgré la mauvaise ambiance qu'Oracle a mis dans le marché a tout de même terminé sa journée de jeudi au plus haut de tous les temps. Mais sur les deux séances post-publication, Oracle aura tout de même perdu quasiment 17%. Et c'était pas tout, parce que jeudi soir, il y avait aussi Broadcom qui publiait. Alors sans s'attarder sur le sujet, les résultats étaient nettement au-dessus des attentes, mais ça n'a pas suffi. Le titre s'est fait défoncer vendredi, mais c'était pas la faute de Broadcom, c'est surtout sur le fait que les gens ont peur et ne veulent plus de la tech, là, maintenant, tout de suite. Oracle plus Broadcom, c'était trop pour une semaine, et du coup, les boîtes défensives et les small caps étaient bien plus sexy que les grands noms de l'intelligence artificielle. Pour info, Nvidia a perdu 3,3% vendredi, et l'action a l'air terriblement fatiguée, même sur le graphique. On se retrouve donc avec une semaine qui nous a offert le soutien de la Fed, mais sans grande conviction, et la tech qui commence à faire peur à tout le monde. Ce mois de décembre ressemble furieusement à celui de novembre, il ne resterait plus qu'à que Michael Burry revienne en mettre une couche sur l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, la Fed était l'axe central de la semaine, mais Broadcom et surtout Oracle saupoudraient le doute sur les marchés mondiaux. En Europe, les marchés ont plutôt bien tenu, suspendus aux décisions américaines et déjà tournés vers la BCE. Au Canada, en Suisse, en Australie, les banques centrales ont joué la prudence en laissant leur inchangé. Et du côté du Japon, on continue à se faire peur avec cette idée de normalisation monétaire et de hausse des taux potentiels. Les experts attendent le 19 décembre comme point pivot avec une immense impatience. Bref, le monde regarde encore Washington et un peu le Japon, et Washington regarde ses statistiques qui sont toujours très très floues à cause du shutdown, bien sûr. D'ailleurs, c'est très très drôle de voir que tout le monde s'enthousiasme à l'idée que l'inflation, selon le PCE, est en train de se normaliser. Mais personne ne se souvient que sur les 5 dernières années, le coût de la vie a explosé de plus de 20%. Je vous laisse checker vos fiches de salaire pour voir si c'était vraiment en parallèle. Mais là, on trouve tout d'un coup super de voir que le PCE n'est qu'à 2,7%. C'est tellement génial. Cette semaine n'a donc pas été un point de rupture, elle était un point de clarification. La Fed a montré qu'elle était prête à accompagner l'économie, mais elle a aussi rappelé qu'elle ne travaillait pas pour le Nasdaq, et ni pour les traders impatients, ni pour les scénarios parfaits. Le marché, lui, il a compris une chose essentielle, les taux baissent, oui, mais la complaisance, elle pourrait coûter très cher. Et dans un monde où tout le monde est long, convaincu, optimiste, la moindre phrase un peu floue de Powell pourrait désormais suffire à nous faire plonger très brutalement, surtout depuis que les CDS, les assurances anti-faillite d'Oracle, sont devenus l'indicateur avancé de tout ce qui pourrait nous gâcher les fêtes de Noël. Et puis alors que la Fed attirait tous les regards, la BNS a, elle, prolongé la pause avec un taux directeur inchangé à 0% et affiné sa prévision de croissance pour l'année qui s'achève à 1,5%. C'est toujours fabuleux de voir que les mecs, ils affinent leur price target encore à 3 semaines de la fin de l'année. Oui, la BNS, c'est diablement sexy et passionnant. On retiendra quand même que la Suisse a au moins obtenu les droits de douane FR rétroactifs. C'est toujours mieux que rien. Les experts estiment que l'inflation a légèrement déçu les attentes de la BNS en novembre et a encore reculé de 0,2% sur une base mensuelle, ce qui conduit à une variation annuelle de 0%. La BNS a donc légèrement révisé à la baisse ses prévisions d'inflation. Combiné à une faible croissance du PIB de 0,5%, cela ne suffit toutefois pas à justifier une entrée en territoire de taux négatif. Voilà, voilà, voilà. On a vu la Fed, on a vu Oracle, on a vu Broadcom, mais il y a un autre sujet qui va devenir le suspense du moment, un autre sujet qui excite Trump au plus haut point, un sujet sur lequel il fait de son mieux pour exciter les médias, et c'est le sujet du remplacement de Jerome Powell. Il y a encore quelques jours, tout le monde pensait que Kevin Hassett serait le successeur annoncé de Jerome Powell, mais depuis 24 heures, la donne a changé. Si on en croit les posts de Trump sur les réseaux sociaux, son nouveau poulain favori serait Kevin Warsh. Le président a expliqué tranquillement que Warsh est désormais en tête de la shortlist pour remplacer Powell, même si un autre Kevin, le Kevin Hassett, reste dans la course. Deux Kevin, un fauteuil, et Trump qui arbitre comme s'il choisissait un premier ministre. Mais le vrai sujet, c'est pas tant le casting. Le vrai sujet, c'est ce que Trump a dit entre les lignes. Selon lui, le président devrait être consulté sur les décisions de taux d'intérêt parce que, je cite, en substance, « Je suis intelligent et j'ai une voix et on devrait m'écouter. » Subtilité zéro, cohérence totale avec le personnage. Trump n'a jamais digéré Powell, il l'a nommé, il l'a regretté, il l'a insulté, puis il a continué à lui reprocher de ne pas baisser les taux assez vite, même après trois baisses consécutives. Et comme par hasard, Warsh partage exactement la même vision. Il faut baisser les taux et baisser encore les taux, toujours et maintenant, tout de suite, le plus vite possible. Résultat, les marchés commencent à intégrer une idée très simple et très flippante à la fois. Le prochain président de la Fed pourrait être beaucoup plus politique que monétaire. Powell part en mai, Trump veut quelqu'un qui écoute la Maison-Blanche, quelqu'un qui obéit à la Maison-Blanche, et Wall Street comprend que l'indépendance de la banque centrale est peut-être en train de devenir tout simplement de la science-fiction. Bref, nous sommes dimanche et il ne reste plus qu'à entamer la dernière semaine complète avant la fin de l'année. L'équilibre est instable, mais les intervenants sont en train de réduire la voilure et on pense déjà à 2026. Alors vous voyez que l'argent continue son bonhomme de chemin, plus 6% sur la semaine, l'or le suit avec une hausse de 2,33%. Après le reste c'est timide, le Dow Jones des transports va bien, ce qui est un signe positif. Le Dow Jones gagne 1%, le Bitcoin reprend 1%, le Nikkei en hausse de 0,68% malgré les doutes au niveau des taux d'intérêt. Le DAX récupère 0,66%, alors que pour le reste la Suisse est en baisse de 0,43%, la France recule de 0,57% et comme vous le voyez, du côté de l'Asie, Shanghai, ça va toujours pas terrible. On attend un stimulus, un Xème stimulus. Et puis le S&P 500 termine en baisse de 0,6% après, comme je vous l'ai dit, avoir touché un plus haut historique durant la semaine. Mais vous le voyez, le coupable est à chercher tout en bas, enfin l'avant-dernière position, le semi-conducteur index qui s'est fait littéralement laminer en reperdant 3,6% durant la semaine. Et puis le pétrole qui baissait aussi de 4,39%. Lui, il sait pas où il va. C'est surtout à cause de la guerre en Ukraine et des éventuels besoins de consommation à droite et à gauche. Le SMI, Kuehne+Nagel qui prend 6%, UBS qui reprend 5,4%, c'est les grosses vedettes de la semaine. Rien de spécial sur Kuehne+Nagel, mais UBS, on va en reparler. Et puis Givaudan qui perd 8,3%. De l'autre côté, on a vu que tout ce qui était un peu tech aussi se faisait massacrer aussi. Donc Logitech, logiquement, perd 5,84%, mais rien de spécial en tant que nouvelle sur le marché suisse globalement. Il y a toujours pas mal d'ajustements de price target en ce moment, donc vous avez des mouvements qui sont justifiés à droite et à gauche parce que les brokers sont de sortie et ils ajustent leur position et leurs recommandations pour la fin de l'année, donc ça donne un petit peu de volatilité, surtout qu'on ne sait pas trop où on va pour le moment. On attaque avec les charts de la semaine. Alors vous voyez le SMI pour commencer, on est toujours dans notre tendance haussière et on est toujours en train de se battre avec la résistance du haut. Vous voyez qu'on est passé plusieurs fois au-dessus durant la semaine mais qu'on termine juste en dessous. C'est jamais très bon ce genre de clôture en fin de semaine. Là on vient taper et on finit juste mais juste en dessous de la résistance. Ça veut montrer que potentiellement le marché il a quand même des accès de faiblesse où il serait prêt à s'emballer un petit peu à la baisse si on le poussait un petit peu trop fort. Le S&P 500, alors lui vous voyez, ça c'est assez facile, on est allé chercher les plus hauts de tous les temps qu'on avait là, ici, on est allé les rechercher ici, on les a cassés l'autre jour, et puis la fin de la semaine, eh bien, le sell-off sur Broadcom et sur Oracle qui a mis tout le monde d'accord. C'est pas une panique en soi, mais on va rechercher un petit peu la moyenne mobile des 50 jours qui est devenue un peu la référence de la panique pour l'instant. Si on la tient, ça va. Si on la tient pas, attention, on peut aller rechercher les bas qu'on a fait l'autre jour dans cette espèce de crise de panique à l'époque où on avait très très peur pour la tech. C'est un peu le même move dans lequel nous sommes en ce moment. Le Nasdaq, vous voyez, lui c'est plus clair. On a déjà tapé la moyenne mobile des 50 jours. Ça fait un tout petit peu peur. Là où on est en clôture, on a bien tenu. Il faudra juste pas qu'on casse la semaine prochaine, sinon on risque de voir quelques accélérations sur la tech, surtout quand on voit le SOX qui lui s'est fait un retour magistral. Alors après on peut pinailler, hein. C'est pas vraiment un double top, mais quand même ça y ressemble furieusement pour l'instant. Il va falloir rapidement repartir dans l'autre sens si on veut sauver la mise, mais quand on voit tout ce qui se passe en ce moment sur les semi-conducteurs et la crainte qu'on a sur la tech, à mon avis, on risque plus d'aller chercher les bas au niveau des 6400 avant d'aller casser beaucoup plus haut. Donc attention, il y a quand même un risque de correction relativement important sur la tech, en tout cas au niveau des graphiques pour l'instant. Le DAX dans un range, on s'est bien repris à cause de l'armement de nouveau, donc le DAX pour l'instant s'en sort pas trop mal. On voit que globalement, on pourrait aller peut-être chercher les 24 750, donc la résistance du canal. Pour l'instant, ça a l'air un petit peu difficile avec le retournement qu'on a vécu vendredi. Là aussi, vous voyez qu'on a un point d'inflexion autour des 24 500 à surveiller entre la moyenne mobile à 24 000 et les 24 500 à très court terme sur le DAX. Le CAC 40, c'est pareil, toujours dans notre range. On n'arrive pas à prendre une direction pour l'instant. On va dire qu'on consolide à haute altitude pour l'instant, mais il n'y a pas vraiment de grande conviction pour l'instant sur le CAC 40. On oscille, on va chercher les hauts, revient. On hésite vraiment à surveiller toujours le gros support au niveau des 8 000 sur le CAC 40. un peu en dessous, même 7 970 à surveiller ces prochains jours. L'or, il repart de plus belle dans, dans le sillage des métaux précieux, donc il y a un gros engouement, on cherche un peu des moyens de se planquer. Et c'est la même chose sur l'argent, vous le voyez, bon ça vous avez assez entendu parler, ça ne s'arrête plus de monter. On a eu quelques prises de bénéfices en fin de semaine, mais l'un dans l'autre, on a un gros intérêt sur les métaux précieux, que ce soit l'or ou l'argent pour le moment. Donc on voit qu'on est à la recherche d'alternatives, surtout que le Bitcoin, pour l'instant, il veut toujours pas. Il est toujours collé autour des 90 000. On a eu 2-3 tentatives la semaine dernière, mais pour l'instant, on sent que c'est très difficile. Alors attention quand même à très court terme. On a l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à casser. Donc on a un petit risque de rechercher, d'aller rechercher les plus bas dans un premier temps autour des 84 000 sur le Bitcoin. Le pétrole, alors lui, il est dans une lente descente aux enfers. Vous voyez qu'on est dans une belle tendance baissière pour l'instant sur le baril. On a essayé de casser l'autre jour, souvenez-vous, on avait été chercher, casser la moyenne mobile des 50 jours, ça n'a pas duré. Pour l'instant, c'est toujours en bas, et pour l'instant, on va aller peut-être chercher les 56 qui seront le point bas, et qui seront aussi le point d'inflexion pour savoir si on est capable de rebondir, ou alors est-ce qu'on va continuer pour une nouvelle leg baissière sur le baril. Mais ça dépendra beaucoup de ce qui se passe au niveau des discussions de paix sur l'Ukraine, qui continuent à traîner de manière assez, on va dire, très très longue à la fin, et très très, ça avance pas beaucoup, on est un peu collé dans le pâté, on espère que ça va bouger, mais rien ne se passe pour l'instant, et ça pèse aussi sur le moral des investisseurs côté baril de pétrole. Je vous montre quand même le graphique d'Oracle, parce que c'est important à l'avoir en tête. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, mais quand on se rappelle comment les gens étaient surexcités d'acheter de l'Oracle à 340 $, aujourd'hui, ils doivent être très contents de pouvoir en acheter à 189 parce que c'est franchement pas cher. Trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions. Vous voyez qu'on n'arrive pas, on clôture quasiment au plus bas depuis bien, bien longtemps sur Oracle. On a même encore plus loin un gap qu'on peut aller chercher encore plus bas sur le titre ces prochains temps, qui se situe ici. Et franchement, si on va jusque-là, on a déjà pété la moyenne mobile des 200 jours. Il y a vraiment de grosses craintes de voir revenir le titre à 120. Mais au-delà de ce niveau de prix, ce qui fait surtout peur, c'est le fait que c'est les CDS. Bon, je ne l'ai pas ici, les CDS, mais grosso modo, les graphiques des CDS, lui, il fait ça. Je vous montre encore Nvidia. À Nvidia, vous voyez qu'on a cette espèce de tendance haussière qui est en train de casser. Ça, c'était l'opening qu'on a eu l'autre jour quand il y a eu les résultats. Donc, vous voyez que le retour de manivelle qu'on s'est pris. Donc, entre les super résultats de Nvidia qui nous ont emmenés à 195 et aujourd'hui, vous voyez qu'on a perdu déjà 20 $ quasiment. Et puis là, techniquement, ça a quand même une sale gueule. Alors après, les puristes, on vous trouvera toujours de ce qu'on appelle des head and shoulders. Donc, vous voyez que quelque part, on a un truc qui est en train de se construire comme ça sur Nvidia. Donc si on casse les 175, 170 de manière assez violente, on pourrait imaginer une réplication de l'amplitude du mouvement ici entre 210 et grosso modo à 170, donc 40 $. Donc si on casse les 170, il y a un risque de se perdre 40 $ quand même sur Nvidia. Donc attention, les éventuelles corrections. Et comme vous le voyez, le titre est quand même vachement fatigué. Ça vaut très très cher. En termes de comparaison, je ne vous le refais pas encore une fois, mais c'est énorme. Donc forcément, les gens sont un peu là. Et à l'approche de la fin d'année, on n'a pas vraiment envie de prendre plus de risques que ça. On attaque maintenant avec les vedettes de la semaine. Sando continue tranquillement de muscler son jeu dans les biosimilaires sans faire trop de bruit, mais avec une logique chirurgicale. Le groupe finalise le rachat de Just Evotech Biologique, récupère au passage le site de Toulouse et surtout une licence illimitée sur une technologie clé, la fabrication continue de biosimilaires. Derrière le communiqué bien propre, le message est simple, maîtriser la production de A à Z, produire plus vite, plus efficacement et à grande échelle dans un marché qui pourrait peser plus de 300 milliards dans les 10 ans à venir. La Slovénie fera partie du gros volume, Toulouse du précis et continu, chacun son rôle et chacun sa spécialité. Bref, Sando ne court pas après la hype pharma, elle construit les usines pendant que les autres regardent encore les plans. Le graphique est juste impressionnant. Bon, la fin de semaine n'était pas top. Si vous regardez là d'où on vient par rapport au bas du mois d'avril, on était à 26 francs et là, on se retrouve à 57,54. La tendance reste très, très affirmée. Et quand on voit toutes les news qui sortent, globalement, il n'y a que du bon. Donc, la tendance est affirmée. Sur faiblesse, il faut accumuler du Sando parce que rien n'a reproché pour l'instant à la société. Et je dis bien pour l'instant. Et tant qu'on ne casse pas la tendance, il n'y a pas de question à se poser. Helvetia Balois se sont mariés, c'est finalisé. Et à peine mariés, eh bien, ils découvrent déjà la joie des comptes communs et la gueule de bois du comptable qui va avec. Le nouveau géant de l'assurance suisse prévient d'emblée. Le passage à IFRS 17 va faire plus de dégâts que de miracles, essentiellement à cause d'un gros amortissement d'actifs intangibles. Rien d'opérationnel, mais suffisamment visible pour plomber les chiffres. Résultat, sur une base pro forma, le bénéfice semestriel ressort à 517 millions, bien en dessous de ce que les deux groupes auraient affiché séparément. Une évaporation purement comptable que la direction préfère neutraliser via une comptabilité sous-jacente, histoire de rappeler que le business réel, lui, y tient toujours debout. Derrière la façade fusion entre égaux, c'est clairement Helvetia qui tient le volant. Direction générale, finance, gouvernance, Baloise a été absorbée plus que fusionnée. Le nouvel ensemble revendique plus de 2 millions de clients, 1700 conseillers et une machine désormais bien installée sur le marché suisse. La promesse, elle, reste intacte, 350 millions d'économies annuelles malgré 500 à 600 millions de coûts d'intégration et une capacité de dividende en hausse de 20% d'ici 2029. Helvetia Baloise annonce 2000 à 2600 suppressions de postes pour 3 ans, sur 3 ans après la fusion, dont 1400 à 1800 en Suisse, principalement au siège et dans les fonctions internes. Je vous montre le graphique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, ça c'est le graphique d'Helvetia Baloise. On va attendre quelques mois pour pouvoir en tirer quelques conséquences pour le moment. Mais vous voyez que voilà, la nouvelle boîte vaut aujourd'hui 198,20 et on a fait des extrêmes à 190,20, donc ce n'est pas non plus hyper excitant dans l'immédiat. À suivre attentivement pour le futur. Vous l'avez entendu, L'Oréal a annoncé son intention de porter sa participation dans Galderma à 20% en acquérant une part supplémentaire de 10%. Le consortium vendeur dans cette transaction de gré à gré comprend également Sunshine, Swissco, l'Abu Dhabi Investment Authority et Oba Investment. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué et sa finalisation est attendue au premier trimestre 2026 sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires compétentes, bien sûr. Avec cette montée au capital, le fabricant français de cosmétiques obtiendra le droit de nommer deux administrateurs non indépendants au conseil d'administration de Galderma. L'Oréal a précisé qu'il n'envisage pas d'augmenter davantage sa participation. Voilà, avouez que l'annonce a fait bouger le titre dans un premier temps, mais ensuite on a vu que des prises de profit sur le reste de la semaine. La tendance est toujours bien affirmée et ça a l'air de plutôt pas mal se passer sur le Galderma. On a vu pas mal de corrections de target et de downgrade un petit peu en fin de semaine. Mais l'un dans l'autre, on tient encore le coup. Le gros support, c'est autour des 152 francs si ça venait à baisser. Mais pour l'instant, là aussi, un peu à l'image de son dos, tout va dans la bonne direction. Et puis UBS retrouve un peu d'oxygène et le marché l'a tout de suite senti. Des informations laissaient entendre en fin de semaine que le Parlement suisse cherche un compromis sur le durcissement des règles de fonds propres imposées au numéro 1 bancaire helvétique, le seul numéro 1 bancaire d'ailleurs. Sur le fond, Berne voulait frapper fort, obliger UBS à capitaliser à 100% ses filiales étrangères contre 60% aujourd'hui afin de couvrir d'éventuelles pertes hors de Suisse. Une approche jugée ultra conservatrice, voire punitive par la banque et le management de la banque. Le compromis proposé par des parlementaires change la donne. UBS pourrait utiliser non seulement du capital dur, le CET1, mais aussi de la dette AT1 jusqu'à 50% de l'exigence, ce qui allège sensiblement la contrainte. UBS ne cache pas son soulagement et salue une approche plus constructive que celle du Conseil fédéral. La banque rappelle au passage que la Suisse applique déjà le cadre réglementaire le plus strict au monde, pendant que les autres grandes places financières font l'inverse. Traduction, trop de zèle réglementaire et c'est la compétitivité de la place financière suisse qui risque de trinquer. Le message envoyé au marché est clair, sécurité oui, auto-sabordage non. Et tant que ce compromis reste crédible politiquement, UBS peut continuer à jouer dans la cour des grands sans courir avec un sac de sable réglementaire accroché aux chevilles. Voilà, vous voyez que ça se passe de commentaires. Hein. Depuis qu'on parle de lâcher un peu la bride, eh ben, le titre a quasiment pris 4 ou 5 balles sur l'UBS. Fin de semaine un peu volatile, bien sûr, à cause de l'annonce. Mais l'un dans l'autre, eh bien, ça se réveille. On a cassé quand même les plus hauts depuis bien longtemps sur le titre de la grande banque suisse. Sur le rang-vrac de la semaine, on commence avec Swatch Group. Le gendarme de la concurrence italien est venu faire un tour dans les bureaux. Soupçon de pratiques anticoncurrentielles, notamment des prix imposés aux revendeurs. Traduction, dossier sensible, réputation sous surveillance. Temenos lance un nouveau programme de rachat d'actions. Message simple, management croit à la société et croit au titre. SFS passe en mode consolidation. 3 acquisitions en Allemagne. Du chiffre d'affaires en plus, du volume et du pragmatique. Sicor, en revanche, s'écroule littéralement. Avertissement sur les résultats. Demande plus faible en Allemagne et devise défavorable, cocktail classique et douloureux. Phoenix Mécano monte, mais paradoxalement, le groupe revoit à la baisse ses ambitions de croissance à moyen terme. Le marché préfère le réalisme aux promesses. Basilea rebondit, partenariat avec une biotech américaine pour développer développer de nouveaux antibiotiques, de la recherche, du long terme et du stratégique. DKSH continue ses emplettes, acquisition de 2 sociétés en Australie et Nouvelle-Zélande, renforcement logique du réseau de distribution. Calida limite la casse, toujours dans le rouge, mais amélioration visible, renouvellement du conseil d'administration en vue. Polypeptide signe un accord avec un groupe pharmaceutique indien, objectif répondre à la demande croissance en peptides, de la visibilité industrielle. APG SGA voit son actionnariat bouger, la NZZ veut monter fortement au capital, consolidation dans les médias, et on termine avec le clencher, une nouvelle conversion de dette en actions. On renforce donc les fonds propres, mais au prix d'une certaine dilution. Voilà, on pourrait espérer que la semaine qui arrive sera calme, mais en fait, c'est même pas sûr. Il y aura une montagne de chiffres économiques, dont plusieurs en rattrapage du post-shutdown, à commencer par les non-farm payrolls qui sortiront mardi. Bon, on va pas non plus se chauffer comme des fous, sachant que ces chiffres sont bricolés et la plupart du temps faux. Le reste de l'année, quand tout est normal, il ne faut donc pas s'attendre à une énorme révolution de ce côté-là. Néanmoins, ce sera un des focus de la semaine. Le plus important sera surtout l'interprétation qu'on va en faire. Après, il y aura aussi et enfin un vrai CPI qui devrait montrer que tout va bien. Le contraire serait étonnant puisque tellement tout va bien et tout est sous contrôle aux USA. Et puis, on terminera la semaine avec la Bank of Japan qui va nous donner le ton du côté de l'Asie et qui aura aussi le pouvoir de secouer le concept du carry trade ou pas. Bref, la dernière semaine avant Noël risque bien d'être moins calme qu'on aurait tendance à l'espérer. Manquerait plus qu'on continue à balancer la tech. Je vais vous laisser finir votre dimanche et on se revoit demain matin pour un nouveau Morning Bull Live pour bien commencer la semaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Excellent dimanche à tous et à demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.